Aujourd'hui, à 100 commentaires ou presque, mon invité et moi en trouverons la porte d'un royaume spéculatif infini pour discuter des éléments connus et des rumeurs aussi folles que plausibles dans ce que nous prépare la quatrième phase de l'univers cinématographique de Marvel. Ça va geeker solide. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode hors série de 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Chers auditeurs et auditrices, je dois vous avouer que je suis quand même un peu surpris d'enregistrer du nouveau contenu par les temps qui courent. Dans le climat de distanciation sociale du moment, je m'étais fait l'idée de devoir attendre que les choses reviennent à la normale avant de convier mon prochain invité pour un enregistrement afin de poursuivre le programme de la saison actuelle du podcast. Mais le destin en a voulu autrement. En effet, il y a quelques jours, pendant que j'étais bien installé en soirée sur mon balcon en train de lire et siroter un Porto, j'ai reçu un texto de mon pote Philippe Derry, que vous avez pu entendre dans l'épisode dédié à Captain America The First Avenger qu'on a enregistré lui et moi l'année dernière. Dans un de ses fameux messages pleins d'enthousiasme, il m'a proposé l'idée qu'on enregistre à distance un des segments qui était à l'origine prévu au programme de notre futur épisode portant sur Avengers Endgame, qu'on avait prévu enregistrer pendant le mois de mai. Son idée était de discuter en profondeur de tout ce qui attend les spectateurs au cours de la phase 4 du MCU. Comme ça, on pourrait mettre la table pour nos auditeurs sur la mythologie des nouveaux personnages qui feront leur entrée, des acteurs et des artisans derrière chacun des films, et même se lancer dans nos prédictions basées sur les informations qu'ont coulées concernant chacun de ces projets. Inutile de vous dire que la suggestion de Philippe m'a tout de suite plu. Quelques jours plus tard, lui et moi nous nous sommes retrouvés pour se lancer avec le plus grand des plaisirs dans cette discussion super divertissante pour ensuite vous l'offrir. Elle a tellement été riche en informations intéressantes que je vais vous la présenter en deux parties distinctes pour faire durer un peu le plaisir et rendre tout ce contenu plus facilement digérable pour vous. En ce qui concerne la suite des choses, une fois que ces deux épisodes sur les films de la phase 4 seront parus, Philippe et moi reviendrons avec un autre épisode qui couvrira cette fois-ci toutes les séries télé du MCU qui paraîtront au cours des prochaines années sur la chaîne Disney+. Juste avant de commencer, je vous rappelle que tout le catalogue des précédents épisodes du podcast est toujours disponible gratuitement sur les plateformes SoundCloud, Réseau et Balado Québec. Vous n'avez qu'à taper le nom du podcast dans leur moteur de recherche pour facilement y accéder. Donc sans plus tarder, débutons dès maintenant notre épisode d'aujourd'hui. Les films Black Widow, The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Thor, Love and Thunder et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et mettant en vedette, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Angelina Jolie, Natalie Portman, Benedict Cumberbatch, William Hurt, Simu Liu, Rachel Weisz, Kit Harington, David Harbour,
Elizabeth Olsen, Christian Bale, Salma Hayek, Florence Pugh, Kumail Nanjiani,
Ray Winstone, Robert Downey Jr., Richard Madden, Gemma Chan,
Ok, c'est à peu près tout le monde, je vais aller perdre connaissance maintenant. Et on est de retour, chers auditeurs. Merci beaucoup de vous joindre à nous dans ce tout nouvel épisode de hors-série qu'on commence immédiatement. Pour briser la glace, eh bien, j'en ai parlé un petit peu dans l'intro, mais je vous présente plus formellement mon invité d'aujourd'hui. Lorsqu'on doit assembler une équipe composée des meilleurs, il est obligatoire de faire appel à lui. Ses connaissances approfondies sur une foule de sujets rivalisent admirablement avec celles de Tony Stark et Reed Richards. C'est en direct de son Sanctum Sanctorum personnel que nous allons rejoindre mon vieux pote Philippe Derry. Philippe, merci de te joindre à moi ce soir.
Ben, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir chez moi.
C'est ça. Les joies du confinement, alors. Écoute, on fait ça, relax bien, confortablement chez nous grâce aux joies de la technologie.
Ben, c'est parfait. Ça, écoute, c'est super le fun. Certains savaient, on était prévu de savoir au mois de mai pour enregistrer notre prochain. Puis là, ben, avec tout ce qui arrive, puis tout est retardé pour tout, ben, on avait un peu out, je pense, d'en parler, fait qu'on a décidé de faire ça aujourd'hui. Hein.
Ça va faire en sorte que notre prochain épisode qu'on va faire, toi et moi, durera pas à peu près 5 heures, donc on le split en deux, on va pouvoir parler du film en tant que tel, quand on va se voir, mais là, on parle de la portion où est-ce qu'on va spéculer sur qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la phase 4. Je pense qu'on va avoir une discussion vraiment le fun, je pense que ça va plaire également à nos auditeurs.
Ben oui, puis écoute, veux pas, on va s'en remettre patience parlant des films, justement, qui vont sortir, parce que là, avec tout ce qui se passe dans le monde, tous les films de Marvel ont été retardés, ils ont été repoussés. Fait que ce qui veut dire que quand le premier film va sortir, on va avoir eu une attente assez longue de 16 mois avant deux films de Marvel, un après l'autre, chose qui n'était pas arrivée, je pense, depuis Iron Man 1.
Donc, chers auditeurs, je vous explique comment un peu ça va fonctionner. Donc, aujourd'hui, comme je le mentionnais dans l'intro, on s'en tient uniquement au film. On va parler de ce qui s'en vient en termes de séries télé sur Disney+, à notre prochain épisode. Donc, on focus sur les films. Et ce qu'on va faire, c'est que Philippe et moi, on va attaquer chacun des films de la phase 4 qui ont été annoncés par ordre chronologique. Donc, au signal, attention, on commence ça. 3, 2, 1.
Yeah!
OK, on commence tout seigneur, tout honneur avec la belle Scarlett Johansson ou Natasha Romanoff pour les intimes. On y va avec Black Widow. Black Widow, au départ, eh bien, si le coronavirus n'avait pas éclaté, on y aurait droit, quoi, dans à peu près une semaine et demie, quelque chose du genre?
Bon, on avait même pris notre rendez-vous, moi et toi, pour aller le voir. Comme la plupart des films Marvel qui sortent, c'est notre rendez-vous à... C'est notre rendez-vous, le release de Black Widow. Là, c'est reporté au 6 novembre 2020, donc 6 mois plus tard.
Bon, je suis convaincu que l'attente va en valoir la peine. Alors, si tu veux, moi, je peux nous amener tranquillement, pas vite, à travers toute la distribution des acteurs de marque qui sont là-dedans, un petit peu aussi qui réalisent ça. T'as déjà dit la nouvelle date, et etc. Donc, Black Widow...
Excuse-moi, puis même si je peux me permettre pour continuer juste sur ce que tu disais avant les personnages, quand tu disais que ça va valoir l'attente, on parle d'un film d'action, de combat, action-packed. On parle, la plupart des protagonistes du film puis des créateurs du film parlent qu'ils essaient justement de recréer l'ambiance qu'on avait pu voir avec le Winter Soldier. Fait que si vraiment on peut avoir un film avec ce rythme-là, avec des scènes de combat comme ça, avec des team-up, je pense que oui, ça va valoir l'attente pour de vrai.
C'est ça, les premiers rapports que j'ai de advanced screening, comme on dit en bon anglais, eh bien, il y avait beaucoup un ton qui se rapprochait effectivement du Winter Soldier, ainsi qu'un peu de tous les films de Jason Bourne et tout ça, très caméra à l'épaule, très action et tout ça. Donc, curieux de voir ce que ça donne. Fait que si tu veux, je continue tout de suite. Bien sûr, au niveau de la distribution des rôles, Scarlett Johansson reprend avec brio, eh bien, dans son film tout à elle, le rôle de la veuve noire, Natasha Romanoff, elle est accompagnée par la très jolie et talentueuse Florence Pugh, qu'on a pu voir dans, entre autres, Midsommar l'été passé. Rachel Weisz aussi s'en vient. Madame Daniel Craig, bien sûr, qui s'en vient jouer un rôle là-dedans. Je pense que c'est quelqu'un qui est relié à la parenté de Natasha Romanoff. David Harbour aussi, Hellboy lui-même, s'en vient dans le rôle du Red Guardian. On a l'acteur Ray Winstone aussi, qui interprète un rôle qui n'est pas encore divulgué. Hey, aussi ressorti des boulamites de l'incroyable Hulk, on a William Hurt qui revient faire le rôle de Thaddeus monsieur. Ross.
Oh, puis on en parlera plus tard, mais Monsieur Ross, le colonel Ross, disons qu'il va avoir un rôle, je crois, très important à jouer dans le futur de la phase.
Ah, j'espère si seulement il pouvait amener sa jolie fille avec lui plutôt. Betty. Moi, j'adorerais ça. À la réalisation, on a une femme, ça va être merveilleux, Kate Shortland, qui a réalisé beaucoup de courts-métrages, de documentaires récemment. Elle s'est lancée dans la fiction il y a quelques années et apparemment, elle a tellement eu de talent que Marvel l'a prise pour justement gérer ce film tout féminin. À la scénarisation, ce qui est amusant, c'est que je regarde un peu les scénaristes ici, Ned Benson, Jack Shea, qui est une femme aussi. Eric Pearson, c'est toutes des gens à l'intérieur de Marvel qui ont travaillé entre autres à la création et à l'écriture des épisodes de Agent Carter, qui ont travaillé également à la co-scénarisation de Thor Ragnarok et de quelques autres films vraiment à l'intérieur de Marvel Studios. Donc, c'est vraiment une affaire de famille, je pense, Black Widow là-dedans.
Oui.
Phil, première question pour toi, OK? Tu vas embarquer aussi après. pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait du film jusqu'à maintenant? Je pense qu'on en sait le plus parce qu'on a vu une ou deux bandes-annonces déjà, etc. Mais quelle information t'as sous la main?
Dans le fond, on sait pas mal, en gros, le synopsis, si on veut. C'est sûr que on a eu la chance d'avoir au moins 3-4 trailers, notamment celui qui avait le plus d'informations était celui qu'on a vu pendant le Super Bowl. On a un qui est sorti même dernièrement, écoute, avec des nouvelles infos, des nouvelles images. On voit d'avance l'esthétique du film. Ça va être très action. Écoute, ça pète. C'est des combats. On sait que si on s'attaque au passé de la Black Widow. Comme on sait que Black Widow avait été formée jadis en Russie dans la fameuse Red Room. La Red Room va jouer un rôle très important là-dedans. Je crois qu'on assiste à une nouvelle menace internationale qui part de la Red Room. Puis la Black Widow va aller voir ça, un, pour renouer de son passé, régler des trucs du passé. Puis en même temps, enlever la nouvelle menace qui règne. On sait aussi que l'action du film, c'est un prequel. Donc, ça suit pas l'ordre établi des films présentement de Marvel. On se retrouverait présentement entre Civil War puis Infinity War. Donc, c'est à peu près dans ce moment-là que ça arrive. Donc, on se rappelle qu'à la fin de Civil War, quand Captain America puis Winter Soldier s'en vont pour aller contrer les plans du Baron Zemo, justement, Black Widow les laisse passer, elle empêche Black Panther d'aller plus loin, puis ensuite, on n'entend plus parler d'elle jusqu'à Infinity War. Fait que c'est ça qui se passerait, dans le fond, dans son histoire personnelle à elle. C'est qu'elle retourne là-bas, puis elle confronte son passé, puis elle affronte une nouvelle menace en tant que telle qui vient directement de son passé, dans le fond, directement reliée avec son histoire. Puis là, on voit à travers les trailers, qu'elle renoue avec des connaissances. Est-ce que c'est sa famille?
C'est exactement. C'était ce que je me demandais aussi, parce que, tu sais, il y a un moment où est-ce qu'ils ont l'air assis autour d'une table, ils ont l'air super family friendly, comme on dit. Et ça, je me demandais, est-ce que c'est de la parenté à elle ou bien c'est des amis de la famille?
Ben, c'est ça, parce que même le personnage de Hopper veut pas, le Red Guardian le dit même un peu, family, dans un des trucs. C'est pas clair. Dans les comic books, ils ont pas de lien de parenté en tant que tel, même que dans les comic books, il y a une ancienne histoire d'amour entre le Red Guardian puis la Black Widow. Je ne crois pas que ça soit le cas dans le film. Ils sont habitués, Marvel, d'agencer ça comme qu'on veut. Pis
ouf, ouais.
Ça pourrait que ça soit la famille. Ce qu'on sait, je ne crois pas que Florence Pugh, le personnage joué par Florence Pugh, va être un lien de parenté en tant que tel, mais je pense qu'ils vont avoir été trainés en même temps dans la Red Room, jadis. Donc, elle aussi, c'est une espionne. Extrêmement content, personnellement, de voir cette actrice arriver dans le MCU. Très jeune actrice up and coming, vraiment, vraiment intéressante. L'arrivée d'Hopper aussi, vraiment content. Écoute, après le fiasco de Hellboy, où ce que même lui puis les producteurs de Hellboy avaient associé la chute, le flop de Hellboy au film de Marvel. Mais là, de le voir arriver dans la MCU, c'est sûr que son arrivée avec le premier trailer a fait une légère controverse, mais là maintenant, écoute, tout est apte à une controverse maintenant. Là, c'est uniquement pour la phrase qu'il avait dit « My suit still fits ». Des gens avaient vu un peu de fat shaming là-dedans, mais là, un moment donné, je pense qu'il faut en prendre pas en laisser.
Ouais, non, c'est ça. Faut pas chercher des controverses parce qu'il faut pas, oui.
C'est lui qui va nous apporter peut-être les petites touches d'humour bien propres à certains films Marvel qui sont habituellement caractérisés par certains personnages et non par la situation en tant que telle. Fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les liens. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. On sait d'avance qu'on va avoir tout un vilain.
Oh oui.
On sait qu'il sera pas tout seul. D'après moi, c'est lui qui doit diriger la Red Room présentement, le Taskmaster. Le Taskmaster, c'est...
Ouais, attends, deux secondes, moi j'ai une question. Oui. Je vais avoir un point sur le Taskmaster, OK? On le met de côté parce qu'il faut que je te cuisine un petit peu là-dessus. Fait que, écoute, c'est un bon résumé, Phil. Ça va être intéressant. On va voir vraiment un peu plus les affiliations... peut-être familial ou du moins dans la parenté, ou moins on va voir la Black Widow avec des amis, c'est ça qui est très bien quand même, puis des alliés, et qui ont l'air d'avoir justement un passé de combattant du crime ou combattant de force, quelque chose de genre, tel le Red Guardian. Il y a le personnage de Rachel Weisz aussi, qui je me demande si c'est une ancienne héroïne, elle aussi, un peu comme son mari, le Red Guardian, quelque chose du genre.
Oui, exactement, ce n'est une.
Ah oui, excellent.
Ça, je peux te le confirmer.
Eh bien, bien hâte de voir ce que ça va donner là-dessus?
Ça me parle directement, parce que sur Rachel Weisz, je joue le rôle de Melina Vostokov, a.k.a. The Iron Maiden.
Ah.
Fait que c'est une ancienne équipe d'élite, là, vraiment. Là. T'avais Red Guardian, Iron Maiden, puis les deux jeunes, Pew, puis...
OK, donc c'est peut-être finalement des vieux partners qui se rassemblent pour un dernier trail ensemble, quelque chose du genre.
Ça a l'air vraiment, vraiment d'être ça. C'est sûr qu'on demande une terme à spéculation présentement. Parce que contrairement aux autres phases puis aux autres trucs, Marvel a vraiment réussi à cacher les scénarios puis les synopsis des prochains films qui s'en viennent. Il n'y a pas eu beaucoup de leaks. Certains ont été démentis assez rapidement. Puis pour un film qui était supposé de sortir dans deux semaines, là, le fait qu'on se fâche même pas vraiment les liens directs, puis toutes les histoires puis les sous-histoires, c'est gros. C'est un grand coup. Écoute, ça paraît que Tom Holland ou Mark Ruffalo sont pas associés au film. Fait qu'eux, ils ont rien dit dans les médias. Ils ont rien dévoilé.
Mais c'est ça que j'allais dire aussi. Ça paraît que Samuel L. Jackson joue pas dans le film parce que lui, il égarait toujours des copies de ses scénarios, genre de Avengers, puis un paquet d'affaires de même. Fait que ça finissait par leaker. Fait que le trois quarts du temps, c'était par sa faute. Tantôt, t'as dit que toi, tu vois le film se passer dans le gap entre Civil War puis Infinity War. Moi, c'est drôle, j'ai une autre théorie. J'ai l'impression que ça se passe dans le gap de 5 ans qu'on a au début de Endgame, finalement.
OK. Non, ben c'est ça. Ben, ce qui porte à confusion là-dessus, sur ce gap-là, c'est quoi? Ben, c'est la chevelure du personnage. Souvent, les temps, tu remarqueras à chaque film où ce qu'on a vu Scarlett Johansson, donc la Black Widow, elle avait toujours les cheveux sensiblement différents.
Oui.
Puis, dans la plupart des trailers qu'on a vus, elle a justement la coupe qui suit à la fin de Civil War, qui juste avant qu'elle devienne Blondie dans Infinity War.
Oui.
Ouais, c'est ça. Fait que je crois que ça pourrait être là, quoique dans certaines scènes. On va supposer que, d'après moi, le film va jouer sur plusieurs temps. Ça se peut qu'il y ait des flashbacks, parce qu'à un moment donné, elle a la coupe de cheveux qu'on voit justement dans le gap des 5 ans quand elle est toute seule dans Iron Gang, quand elle est toute seule dans le Avengers Headquarters. Fait que non, ça reste à voir.
Moi, ça me fait penser au slogan de Vidal Sassoon, c'est-à-dire la temporalité de Black Widow, seul son coiffeur en a le secret.
Exactement. Oh, ben, c'est clair.
Aïe, t'as commencé à en jaser pendant une petite seconde. Écoute, on a notre antagoniste. Je sais pas si il va être meilleur que les nombreux antagonistes des autres films de Marvel, tous films confondus, parce qu'on s'entend que souvent, c'est pas la plus grosse force de ces films-là. Cette fois-ci, ça va être un antagoniste nommé le Taskmaster, le maître de la tâche. J'espère qu'il va être traduit de meilleure manière que ça. Mais toi, connais-tu un peu le Taskmaster? J'avoue être dans le noir, puis moi, le seul Taskmaster que je connais, c'est le gros lutteur de la WCW, Kevin Sullivan, à l'époque, qui s'appelait le même.
Non, ben c'est ça. Le Taskmaster, écoute, c'est un maître du combat. C'est avant tout un maître du combat.
Okay.
C'est quelqu'un qui a l'habilité, en tant que tel, de pouvoir copier n'importe quel style de combat ou de technique de combat de ses adversaires. Selon ce qu'on peut voir dans le plus long des trailers, on le voit en partant copier le style de combo de 3 Avengers. Donc, Black Panther, Captain America, puis Hawkeye.
T'as tout vu ça dans un trailer, wow, c'est toi Hawkeye, là.
Ouais, ben c'est la façon qu'il manie son arc, qu'il va chercher son arc quand il est sur le toit d'un véhicule d'assaut en tant que tel. C'est vraiment la technique à Hawkeye pure et dure. Il va, quand il se bat contre, je crois que c'est contre le Red Guardian, il saute à pieds joints. Écoute, une double savate dans les airs, qui est exactement la même double savate que Captain America fait dans un film. T'as la façon qu'il a de croiser ses bras un moment donné quand il affronte Black Widow dans le trailer, qui est exactement la marque de commerce de Black Panther. Donc, tu le vois déjà qu'il a étudié le style de combat des Avengers sans les avoir confrontés. Donc, à ce moment-là, ça nous dit, OK, il les a vus, ces personnes-là, il a étudié le style de chacun, puis il a pu les recréer en tant que tel. Donc, j'ai hâte de voir ça, mais le Taskmaster en tant que tel, c'est un personnage assez obscur. dans les comics, il a été personnifié à plusieurs reprises dans différents comic books, pas juste avec Black Widow, dans l'univers de Black Widow. Je crois personnellement que c'est un vilain qu'on va pouvoir s'attacher, parce que c'est pas un spoiler ici, ce n'est que spéculation. Je ne crois pas qu'il va mourir à la fin du film, et je crois qu'il y a un rôle à jouer dans l'avenir, justement vis-à-vis d'un personnage qu'on a vu le caméo, Thaddeus Ross, justement, qu'il est connu dans les comics pour avoir fait en tant que tel, avoir dévié un peu du bon côté, puis d'avoir créé une espèce d'équipe de super-vilains pour contrecarrer un peu tout ce qui se passait du côté bon, puis pour pouvoir lui-même avoir la gloire éventuelle. Ça se pourrait que Black Widow, justement, mette des graines pour former cette équipe-là. Autant qu'on a vu Nick Fury, dès le départ, vouloir former les Avengers, je crois que dans la phase 4, on va assister à Thaddeus Ross qui va créer cette équipe de vilains. Et je crois personnellement que Taskmaster va en faire partie, ce qui est déjà arrivé dans les comics. Donc, ça pourrait peut-être nous laisser entrevoir quelque chose de gros pour un futur team de super vilains en tant que tel.
Un peu le Suicide Squad de la phase 4 de Marvel.
Il y a les rumeurs en tant que tel que le personnage de Florence Pugh pourrait aussi faire partie de ça éventuellement. Donc, est-ce que vraiment est une bonne ou est une vilaine dans le film? Est-ce qu'elle va se promener? Est-ce que c'est une genre de... qui donne dans le contre-espionnage? On ne sait pas, c'est... J'ai vraiment hâte de voir le développement des personnages-là, parce que je pense qu'on va assister à la création d'arcs plutôt que juste voir ces personnages-là, ne serait-ce qu'un seul film ou deux seuls films, et en le mettant dans le passé, puis en revenant dans le présent par après avec les autres films, ça peut supposer justement que ces personnages-là vont grandir de leur côté pour mieux nous revenir. Ça reste intéressant comme spéculation puis comme théorie.
Il y a des rumeurs depuis un bon bout de temps qui disent et qui nous laissent entrevoir que Tony Stark lui-même fera un caméo dans ce film, peut-être via un flashback ou via justement le fait que ça se passe plusieurs années avant les événements de Infinity War puis de Endgame, justement. Toi, t'embarques-tu dans le train?
Ben, je vais être franc, toi, j'embarque plus que dans le train, je te confirme que ça va arriver. Quand la nouvelle avait sorti qu'il y aurait eu peut-être une apparition de Robert Downey, ben de Tony Stark dans le film de Black Widow, il y a beaucoup de journalistes qui ont directement communiqué avec Robert Downey Jr. Robert Downey était très vague au départ. Il a dit que lui n'a pas été approché, qu'il n'a pas tourné de scène. Mais éventuellement, avec l'acharnement et avec tout ça, il y a eu un genre d'imbroglio sur le fait que Robert Downey Jr. a tweeté, ou je pourrais pas dire exactement où ce qu'il a dit ça en tant que tel. Marvel aurait pris des footage de Iron Man dans d'autres films ou de scènes qui auraient été deletées ou pas prises pour pouvoir faire justement un caméo qui serait parti d'un flashback ou d'un flashback de flashback, comme j'aime dire depuis le début. Comme Robert Downey Jr. a dit, il a pas filmé de nouveaux trucs, puis il a pas été payé. Mais Marvel, avec tout ce qu'ils ont déjà enregistré, peuvent faire ce qu'ils veulent, dans le fond, avec les footage qu'ils ont déjà filmé.
Ben écoute, moi je suis pas mal sûr qu'ils ont pas été à la manière cheap de Star Wars, genre Rise of Skywalker, puis prendre du justement des scènes d'archives. Ouais. Je pense qu'ils ont fait venir Robert, puis ils ont dit « Ok, mets le suit, on tourne un après-midi avec toi, super, puis s'il y a besoin d'être rajeuni un petit peu via le CGI, ils vont le faire, il y a pas de problème. » Mais d'après moi, il a accepté avec plaisir, moyennement, un petit salaire bien sûr, mais je pense qu'on va avoir vraiment une scène tournée expressément pour le film avec lui. On a enfin notre film de Black Widow, après qu'elle ait joué un peu les seconds violons depuis 2010, quelque chose de genre, avec sa première apparition dans Iron Man 2. Moi, je dis enfin, il était temps. Selon toi, est-ce qu'on aurait pu lui donner son film solo un peu plus tôt que ça?
Ben, c'est sûr qu'en tant que personnage, en tant que suite logique, en tant que membre des Avengers original, ça aurait pu être intéressant d'avoir une histoire de Black Widow avant. C'est sûr que le MCU au complet, Kevin Feige en partant, avait leur plan sur un plus long scénario, une plus longue timeline avec les trois premières phrases. Puis je crois que présentement, le timing du film est quand même bon pour nous donner ce qui nous manque un peu, ce qui est les gaps, des ellipses de temps dans l'histoire du MCU, peut-être pour réparer certaines fractions dans le temps. Mais il y a aussi le fait, je pense, que à travers tout ce film-là, puis ce grand divertissement-là qui va apparaître, je pense vraiment que le timing de ce film-là sort pas pour rien. On n'a pas le choix de faire confiance à date sur ce qui est d'un timeline. Je crois que le timing est parfait pour ça, pour cette histoire-là, pour ce qui va arriver par la suite, pour tous les liens, pour tous les petits indices qu'ils vont nous donner. Je pense que ce film-là va être beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des indices. J'ai déjà hâte de voir les post-credit scenes qui vont nous parler de la suite. C'est sûr qu'on aurait aimé un film juste sur Black Widow avant de savoir son destin tragique, disons. On va donner chance au coureur, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est si relevant que ça d'arriver en commençant une phase avec un film qui serait un genre de prequel ou un genre de truc du passé? Ça aussi, on va leur donner bénéfice du doute. On n'a pas vu ça faire encore.
Hey, petit truc pour toi. Savais-tu qu'avant même l'existence du MCU et que Scarlett Johansson hérite du rôle en 2010, eh bien, sais-tu qu'il y a eu une première tentative, genre au début des années 2000, pour amener Black Widow au grand écran?
Ah non, ça je savais pas.
C'était en 2004, c'était le scénariste David Ayer qui était bien connu à l'époque pour avoir été le scénariste du premier X-Men.
Donc c'est à lui qu'on doit le fait que Sabretooth et Wolverine ne se connaissaient pas.
Exactement, en effet.
Ah ben oui, bel job.
Fait qu'ultimement, lui, bon, écoute, c'était un peu le nouveau Jésus-Christ d'Hollywood, et etc. Et à l'époque, il lui avait donné le mandat d'écrire et de réaliser un film de Black Widow. Bon, le projet est mort dans l'œuf. Ultimement, on n'a jamais eu vraiment de retour de ça, mais j'avais vu des nouvelles passer à l'époque sur les sites de cinéma et de nouvelles que je consultais, puis c'est encore très frais à ma mémoire. Mais en tout cas, je suis curieux de voir qui aurait pu jouer ça. Ça aurait été sûrement genre Denise Richard à l'époque ou quelque chose du genre. Ça aurait été très drôle, mais...
Ah, peut-être. Wow, pire Alicia Silverstone, imagine. Déjà après son échec de Bad Girl.
Ah, il y a des très grandes chances. Ellen DeGeneres.
Ah, il y a une Dancing Black Widow. Ah, je suis vraiment content que ce projet-là ait jamais vu le jour parce que, justement, moi, je m'excuse, mais... Ce que Scarlett Johansson a fait avec le personnage à travers les années, c'est vraiment fort. C'est vraiment extraordinaire. J'adore. J'étais à tes côtés quand on a versé une larme dans le cinéma pendant Endgame. Non, j'ai bien hâte de revoir. J'ai hâte de revoir le film. J'ai hâte de revoir le personnage. Bon, on se mentira pas, j'ai hâte de voir l'actrice aussi.
Tout à fait, elle a son dû, c'est ça qui est le fun. T'sais, je pense que l'attente va avoir la peine. T'sais, elle s'est démerdée tellement bien avec tout le temps où est-ce que son personnage était un second violon. Elle va se faire une performance vraiment géniale dans son film solo, surtout que c'est une sacrée actrice. T'sais, juste cette année, aux Oscars, elle était nominée genre comme meilleure actrice de soutien puis meilleure actrice aussi, pour deux films différents.
Ah, mais étais-tu bonne dans Marriage Story? OK, on va ailleurs, là, mais quand même, c'était quelque chose.
Très, très bonne, mais aussi elle était géniale dans Jojo Rabbit également, mais pour Marriage Story, moi, j'ai tellement hâte de voir un film où Black Widow, genre divorce, là, ce serait super aussi.
Mais c'était-tu bon, ça, Jojo Rabbit? Il y a qu'un peu collé.
Ah, c'est un de mes films préférés de l'année. Honnêtement, tu sais, quand je sors de la salle avec le sourire aux lèvres, là, c'est que ça a marché pour moi.
Hey, ça, là, wow, Scarlett Johansson, vraiment, vraiment le fun. Écoute, puis notre ami,
Taika!
Hey man, j'ai assez hâte de revoir. On va en parler tantôt, le nouveau Thor. C'est lui qui revient encore à la direction. Écoute, j'ai hâte d'en parler.
Très, très bien. Hey, dernière question, dernier point plutôt sur Black Widow. En ce moment, là, les nerds commencent à vouloir prendre le contrôle un peu du calendrier de Marvel et de Disney. Là, ils commencent à avoir des grosses pressions populaires de nerds pour faire en sorte que le film Black Widow sorte sur Disney Plus plutôt qu'en salle à cause des événements de la COVID. Toi, ultimement, qu'est-ce que tu fais? T'es Disney et Marvel. Est-ce que tu le sors sur Disney+, finalement, tu romps aux pressions populaires, ou tu tiens Morticus à le sortir en salle?
Ben, tu vois, avant de jouer le rôle de Marvel-Disney, je vais jouer mon propre rôle qui va dire ce groupe-là, ce groupe extrême de fans. Là. Écoute, le MCU vous a apporté tellement, il vous a apporté ça, il vous a amené dans un univers extraordinaire. Puis là, je sais pas pourquoi vous décidez que soudainement vous avez un mot à dire sur quoi que ce soit, autant sur les acteurs, les actrices, sur la direction, sur ci, sur ça. C'est ça, gars, arrêtez. Ils vous ont rendu là, vous leur avez fait confiance, continuez. T'as une panoplie de trucs, là. Je vais aller un peu plus loin, là. Écoute, il y a des pétitions en ligne pour que Brie Larson ne soit plus Captain Marvel. T'as des pétitions en ligne pour qu'un Black joue Magneto. T'as des pétitions pour que même dans le DC, Amber Heard soit plus là. Qu'Evangeline Lilly soit plus la Wasp à cause de ce qu'elle a dit dernièrement. C'est comme, gars, arrêtez vos pétitions. Ce monde-là, on signe des contrats. Ce monde-là sont là. Disney va décider. Disney avait pris une décision controversée dernièrement quand elle avait mis James Gunn dehors pour des vieilles affaires. Gars, ils sont allés le rechercher parce qu'ils se sont rendus compte que gars, c'était des vieilles affaires, puis veut pas, c'était la meilleure personne pour pouvoir continuer ce qu'il avait déjà commencé. Moi, ça, je dis arrêtez. Moi-même, en premier, mon premier réflexe, ça a été sortez-les sur Disney+. Ne serait-ce que, gars, vous avez fait assez d'argent avec ce que vous avez fait avec le Endgame, puis avec toutes vos 22 autres films d'avant. Sortez-les sur Disney+, épongez un peu de tout, puis ensuite, là, tu lis, puis là, c'est là que je me mets à la place de Disney puis de Marvel. Mm-hmm. Écoute, chaque tournage qui est retardé, chaque film que la sortie est retardée, c'est toutes des dates qui avaient été bookées, c'est des trucs qui avaient été loués, c'est des équipes de tournage, c'est des contrats, des tout. Ils perdent présentement de l'argent fou. Ça nous passe du pied par-dessus la tête que Disney perd de l'argent présentement, c'est sûr et certain, là. Mais de vouloir continuer le fait en sorte que non, nos films vont être sur grand écran à la base pour pas rentrer aussi non plus dans le créneau un peu comme Netflix. Marvel puis Disney vont continuer quand même d'aller vers l'avant avec leur théorie que non, un film de cinéma doit se faire voir sur un grand écran avant tout. L'idée de la première, l'idée de l'avant-première, l'idée du glamour, l'idée de tout. Et non, je respecte la décision. Puis on va aller voir sur grand écran, puis on va être bien plus gâtés que si on l'aurait déjà vu sur notre TV avant.
Si je peux renchérir aussi sur ce que tu dis, regarde, moi aussi, si je suis Disney et Marvel, je garde ça pour le grand écran exclusivement. À ces nerds-là qui veulent le contraire, je vais dire comme Pat Burns disait, qui mange de la marde.
Ouais. Okay.
Parce que, regarde, en ce moment, on est avec la COVID-19 et tout ça, on est dans une espèce de traumatisme collectif, puis il va falloir que les gens m'amener recommencent à avoir confiance quand tout va être fini, d'avoir des expériences de groupe. Et quelle est la meilleure expérience de groupe? C'est d'aller au cinéma. Et Marvel va contribuer à ça avec justement Black Widow, c'est-à-dire on va recommencer à créer cette habitude d'aller voir le film sur grand écran, de triper en gang, d'avoir un party de nerds. Puis ça va être le signal comme quoi le party commence, notre traumatisme, la COVID-19, commence à être un petit peu en arrière de nous autres. On va pouvoir faire des trucs de manière commune, tous ensemble, 200, 300 personnes dans une salle, oui. Avoir un bon moment. Et je pense que ce soit Black Widow ou tous les autres films de Marvel ou tous les autres films des autres studios qui n'ont pas rapport à être des films de super-héros, ça va être cette espèce de remède-là qui, tranquillement, pas vite, au fil des mois, au fil des années, va cesser de nous donner peur de l'autre, de garder 2 mètres de distance, de changer de trottoir quand tu marches devant quelqu'un sur la rue ou des affaires de même. Ça va être une petite partie de cette solution-là, mais d'après moi, Black Widow, ainsi que plein d'autres films, vont servir à ça.
Ben oui. Écoute, moi je me rappelle encore, écoute, on a étudié le cinéma ensemble, on a vu des grands chefs-d'œuvre, on a vu toutes sortes de choses,
ah oui.
On a vu des salles de cinéma, où que, gars, il y en a un qui parle, puis moi-même je me retourne, puis non, tu fermes ta gueule. Il y a rien qui peut remplacer l'expérience qu'on a eue, moi, plutôt quand on est allé voir Endgame en avant-première.
Ah ouais, un Christy de party nerd, ouais.
Hey, man, quand Captain America soulève Mjolnir, la salle en délai, même moi, j'ai failli me lever, là, j'ai capoté,
ah,
la gang, là. Quand les cercles se sont formés, chaque personnage qui revenait, tout le monde, ouais! Juste quand, la mort des personnages, on entendait le monde renifler derrière nous, on n'était pas tout seul qui vivait ces émotions-là, on les partageait ensemble avec une même passion, puis c'était une des meilleures expériences cinéma de ma vie, là, ce film-là, 3 heures au complet, sans même me lever pour avoir envie ou quoi que ce soit, puis
aller en fumer une, ouais.
Enfin, toi, t'es allé une fois, puis c'est, je le sais. Ben non, moi j'ai toffé 3 heures quand même. Mais wow, hey, puis en plus, attendre comme des caves que le générique finisse pour être le seul film qui avait pas de scène de crédit. Mais bon, c'était call-in d'expérience, ça. Puis écoute, j'ai hâte d'être dans le cinéma, écouter Black Widow. quand Red Guardian va nous faire des affaires, quand Taskmaster va nous faire des passes qu'on dit « Hey, lui, on le reconnaît. » Ah non, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte.
Mais c'est-tu ce que je vais faire avant qu'on rentre dans la salle? Je vais arriver devant toi, puis je vais te serrer dans mes bras, man. Pendant longtemps, en disant « Ça fait longtemps que je veux faire ça. La COVID-19 est derrière nous. Allons-y, gros câlin. »
Parfait, je vais te tousser dans l'oreille.
C'est ça, lui. C'est ça, excellent. Allons-y maintenant, je pense qu'on est prêt à passer au deuxième film de cette phase 4 cinématographique. Celui-là est très intriguant, selon moi. Et on s'en va dans l'espace intersidéral et même plus loin encore avec The Eternals, les Éternels. Je sais pas si ça va être ça, la traduction. J'espère que oui, ultimement. Les Éternels, écoute, je peux faire le tour très rapidement. Une date de sortie prévue pour le 12 février 2021, si c'est pas reporté, ouais, bien sûr. Mais apparemment, le film a déjà l'air fini de tourner. C'est quand même déjà bien.
Ouais, on a plusieurs photos du set qui sont leakées. On a plusieurs images, on a des petites histoires, on a quand même un peu de matériel à se mettre sous la dent.
Qui joue là-dedans? Eh bien, on a quand même une belle brochette d'acteurs. On commence avec Angelina Jolie, qui d'après moi aurait sûrement joué Black Widow dans ce film de 2004 réalisé par David Hayter, s'il y avait eu lieu. Ensuite, on a une autre très belle femme, Salma Hayek. Richard Madden aussi, qu'on a pu voir dans le très bon Rocketman, aussi ce biopic sur Elton John. On a l'humoriste Kumail Nanjiani, que moi je suis en train d'écouter un podcast qui est co-animé par lui puis sa femme un peu sur comment il s'en sort dans le COVID-19 plutôt et comment ils réussissent, c'est très bien. Gemma Chan aussi, excellente actrice. Brian Tyree Henry également. Et aussi, Monsieur Jon Snow lui-même, Kit Harington également, qui, je pense, fait un des seuls personnages terriens de ce film.
The Black Knight.
Je sais pas trop ce que ça va donner, il y a peut-être des chances. Alors, une autre réalisation toute féminine avec Chloé Zhao, réalisatrice aussi. Attends, je suis en train de regarder tranquillement, pas vite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelques films des dernières années, The Rider, Chansons que mes frères m'ont apprises, plusieurs courts-métrages. Pour l'instant, dans ces deux premiers films-là, on a l'air de remarquer que Marvel est allé chercher pas des gens établis, sont allés chercher des réalisateurs et réalisatrices de la relève, un peu, je dirais. Bon, bien sûr, ils coûtent pas cher, ils sont pas blasés de réaliser des films d'action, de genre ou de super-héros, donc ils amènent un regard tout à fait frais. J'adore la touche féminine aussi qui vient avec ces réalisatrices-là aussi, avec une espèce de façon différente de voir les choses aussi. Je pense qu'on sera vraiment pas déçus de leur travail à ces deux réalisatrices-là. Puis surtout que ça a l'air d'être quelque chose de gigantesque dans le spectre de la chose qu'on a donné à Chloé Zhao, l'univers des Éternels, parce que je t'allais lire un petit peu avant qu'on enregistre là-dessus, et ça a l'air d'être extrêmement touffu comme univers à eux autres, les Éternels. Toi, t'en sais-tu un petit peu sur eux autres? Moi, je suis allé faire mes recherches. Si tu veux, tu peux commencer ou moi, je peux commencer.
Ouais. Ben, deux choses avant de commencer. Premièrement, quand tu parles justement de la réalisatrice de l'univers, la phase 4 de Marvel va amener surtout un très, très grand déploiement de femmes. C'est le thème, l'inclusion des femmes dans des rôles extrêmes, dans tous les rôles, dans tous les films. On parle, veux pas, le film qui part la phase, c'est Black Widow. The Eternals, deuxième film, réalisé par une femme. Deux personnages des Eternals, originalement dans les comics, étaient des hommes, maintenant c'est des femmes, soit le personnage d'Angelina Jolie, d'ailleurs, et de l'autre.
Puis tout le monde s'en fout que ça ait switché d'homme à femme, là, on s'en fout royalement, là.
Tu sais, c'est pas comme si on avait mis Doctor Strange en femme, mettons, là. Les Eternals, de là mon deuxième point aussi, Marvel a fait son pain et son beurre d'aller chercher des comic books qui est un peu moins connu du grand public pour en faire des films puis les inclure directement. À l'époque, je me rappelle, gars, je m'excuse, je suis un grand connaisseur de comic book Marvel et tout, mais les Gardiens de la Galaxie, c'était pas connu par tout le monde. C'était vraiment pas à grande échelle. Écoute, ce qu'ils ont fait avec les films, on leur a fait confiance, puis c'est devenu des personnages principaux dans le MCU, chose qui n'a jamais été vraiment si principaux que ça dans l'univers des comics, selon l'opinion publique. Écoute, les Eternals, le film va se dérouler sur 7000 ans. C'est énorme. C'est vraiment 7000 ans. On parle de la création, probablement qu'on va voir la création des Eternals. jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, leur guerre éternelle avec les déviants qui sont leur contrepartie, les vilains en tant que tels. Les Eternals, à la base, ont été créés par les Celestials. Les Celestials, on a déjà vu un peu de tout ça grâce aux Gardiens de la Galaxie. Deux exemples, quand ils vont voir... Benicio del Toro, le Collector. Quand il va, c'est-tu le Collector quand il va voir?
Oui, c'est le Collector, oui.
Ouais, qui montre justement des vieilles images d'un immense être ressemblant à un robot qui détruit des planètes au complet. Ça, c'est un Celestials. La planète Nowhere, qui où est-ce que justement vit le Collector, c'est la tête littéralement d'un Celestial qui est décédé. Imagine juste la tête du Celestial est une planète. Mm-hmm. Fait que non, c'est des êtres extrêmes qui ont créé les Eternals, créé les Déviants, créé pas mal tout ce qui est l'origine en tant que telle de tout. Les Eternals, c'est des êtres cosmiques, comme tu dis, sont immortels, hein? Les Eternals sont éternels. Eux sont chargés de garder un œil sur le bon déroulement des événements importants qui se passent sur la Terre, sur les autres planètes. Ils défendent en tant que telle l'intégrité des autres planètes. Sont en guerre éternelle face aux déviants. Les déviants, c'est une branche, si on veut, des Eternals. C'est comme un peu les essais-erreurs que les Celestials ont fait avec les Eternals. Les Eternals, c'est des êtres de bon et du bien, tandis que les déviants, c'est le evil side, c'est le mauvais cousin des Eternals. Puis cette gang-là, ils se battent depuis le début des temps. Les déviants, ils croient en une autre création qu'eux, ils ont eue, qui est un Celestial qui avait été exilé. Puis ils se donnent le droit, eux autres, dans ce cas-là, selon les doctrines de Celestial-là, de pouvoir envahir des planètes, puis de ruler la planète, si je peux m'exprimer en tant que tel, comme ça. Sûrement que les Eternals, s'ils font un film-là, c'est qu'il va y avoir quelque chose avec la Terre, genre de voir qu'est-ce qui va se passer.
Absolument, parce qu'apparemment, les Éternels, justement, ils ont des gros impacts sur la création de toutes les facettes un peu, tu sais, de la Terre, de notre histoire un peu telle qu'on la connaît, même la création de trucs un peu plus, fabulatoires, style les divinités grecques.
Ben, carrément.
Donc, anyway, ils ont été à l'origine de la création de ces affaires-là, du Mont Olympe, etc., puis aussi des trucs un peu plus réalistes de notre côté également. Sérieusement, ils ont du bagage en ciboire, là, c'est fou. Hein?
Ah oui, non, c'est ça, parce qu'à la base, c'est ça, dans les comics, les Eternals, écoute, ils ont commencé à vivre en cohabitation avec les humains dès les Hommes des Cavernes. C'est avec les Hommes des Cavernes qu'ils ont fait leur premier essai, leur premier test, les manipulations génétiques et tout ça. Même que les Eternals seraient, dans le fond, à la base... de ce qui a pu créer le gène des humains pour avoir des super-pouvoirs. Mm-hmm. Donc, en tant que tel, tous les super-héros découleraient, veut pas, des manipulations génétiques jadis faites à l'époque par les Eternals. Fait qu'on rejoint vraiment tout l'univers au complet de tout le monde là, avec l'apparition des Eternals. Le casting, t'en as parlé tantôt, mon Dieu que c'est du All-Star. Ça, on est un peu moins habitué. Mais là, on va dans du gros stock. Là. Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Madden. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir ça. Les suits ont commencé à sortir. Pas juste les suits. Tu parlais de Nouyel tantôt, ton humoriste. C'est des photos qui sont sorties sur son compte Instagram. Ouais, le gars.
Il s'est jacké solide. C'est hallucinant.
Il y a des veines qui n'existent même pas dans l'avant-bras tellement qu'il est rendu musclé. Ça n'a pas de bon sens. Oui.
Écoute, moi, je suis en train de me demander si tout ce travail-là va vraiment être montré dans le film et qu'ultimement, il va avoir sa scène où est-ce qu'il porte pas de chandail ou rien sur le haut du corps parce que sinon, ce serait un peu frustrant. Moi, ça me fait penser à, tu sais, à J.K. Simmons quand il avait été casté pour jouer le commissaire Gordon dans Justice League. Puis finalement, on voyait des photos de lui sur son Instagram où est-ce qu'il est au gym, il est en train de se jacker solide. On voit la définition musculaire dans les pectoraux, les deltoïdes, les bras. Puis là, je m'étais dit, man, il y a sûrement une scène où est-ce qu'il va en sacrer une au pingouin ou au sphinx, n'importe quoi. Puis finalement, non, il est dans quatre scènes. Il est habillé, genre, avec des couches, un trench coat en plus de ça. Fait que là, j'espère qu'il va y avoir... Kumail va l'avoir parce que dans son podcast que j'écoute, tu sais, il raconte, tu sais, qu'il s'entraîne à tous les jours puis ça l'aide à combattre un peu son anxiété. à chaque fois que sa blonde le voit sortir du gym, elle dit « Man, on dirait que t'es encore plus gros que la dernière fois que je t'ai vu. » Man, il est passé genre d'un petit humoriste, genre avec aucune définition musculaire, à comme 8 mois plus tard, à un physique sculptural, là, c'est hallucinant.
Ah oh non, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Tu sais, ben, je sais pas si on va le voir en bédaine dans le film. Je peux t'avance te dire que son personnage a pas de l'air d'avoir une histoire d'amour, une petite amourette ou quoi que ce soit. Là. C'est sûr qu'il va en avoir là, dans les Eternals, on veut pas quand que tu...
Je pense que ça va être plus un peu à la David Harbour qu'on parlait tantôt. Ça va être le comic relief, si on veut. Ça va être lui un peu par lequel l'humour va passer, si je ne m'abuse.
Il y a des chances, il y a des chances. Mais d'après moi, il pourrait en avoir au moins 2 dans ce film-là. J'ai hâte de voir ça. Écoute, je suis pas extrêmement familier avec les Eternals. Je les ai vus souvent un peu passer partout parce qu'ils ont fait partie de tout, les comics quasiment. Ils sont à la base même du terme du super-héros. Donc moi, en étant jeune, je les avais vus jadis dans des X-Men, dans des trucs comme ça. Puis, mais là, des amener maintenant, écoute, je trouve ça super intéressant. Ça démontre encore une fois que Marvel s'en va... On va y aller encore une fois avec les phases puis les phases à venir. Une partie sur Terre, une partie dans l'espace. Puis on espère éventuellement que ça va se melting potter comme ça a fait dans les dernières phases pour nous offrir des films de finale et de rassemblement extraordinaires. Mais non, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça m'intrigue énormément, les Eternals. Je pense qu'on va assister à quelque chose de très, très, très gros qui va nous apporter beaucoup de connaissances, dans le fond. Puis d'approfondir nos connaissances sur ce qu'on a déjà vu, ça pourrait colmater des brèches, mais ça pourrait surtout faire en sorte qu'on va être plus familier avec l'espace que, oui, on a vu avec les anciennes phases, mais qu'on n'a pas été directement vraiment questionné. Parce qu'on est déjà en connaissance d'un déviant. Thanos est un déviant.
Ah oui, j'avais aucune idée.
Quand Thanos va chercher la Soul Stone dans les Endgame, The Red Skull... qui l'appelle The Son of Alars. Alars, c'est un Eternal. Le père de Thanos est un Eternal.
Ah,
Thanos
oui, okay.
Est né déviant. C'est la première fois. Ben, dans les comics, c'est la seule exception à la règle. C'est le seul Eternal qui est né déviant. Donc, de parents Eternal qui est né déviant, donc Evil Side. Fait que probablement qu'on va peut-être toucher un peu à l'histoire de Thanos pendant ces 7000 ans-là.
Ah, énormément de spéculations parce que ultimement, j'ai une entrevue de Kevin Feige sous les yeux, puis il parle un peu de la réalisation de notre ami Chloé Zhao. Et c'est ça, il dit que ça va être un festin visuel spectaculaire. Ça va être la question, mais outre ça, on n'en connaît pas beaucoup. Il n'y a rien qui a leaké pour l'instant un peu sur quelle pourrait être l'histoire, et etc. Moi, c'est drôle, j'ai la liste de tous les acteurs ici avec le nom des personnages qu'ils interprètent, puis je sais même pas si qui le méchant là-dedans ou quelque chose du genre. Je sais pas, ça va être quoi les enjeux. Ouais. Tout est bien gardé sous le sceau de la confidentialité pour l'instant. Je suis vraiment très intrigué de retourner dans les confins de l'espace, des galaxies, de l'intersidéral, du mythologique, parce que ça a l'air... gros, ça a l'air lourd, mais ça a l'air passionnant comme espèce d'odyssée dans laquelle Eternals va nous amener. En fait, j'espère que ça va être ça, mais je suis prêt à me laisser prendre par la main puis rentrer dans cette mythologie-là des Eternals qui a l'air tellement vaste et lourde et énorme et passionnant.
Ben écoute, tu vas être gâté, je t'avertis d'avance, parce que ce qu'on voit des photos qui ont...
Avec plaisir.
Des photos qui sont sorties des sets... écoute, on se promène dans les époques, on se promène... dans l'ancienne Grèce, on se promène par-ci, on se promène par-là, on a l'Olympe. Écoute, paraît qu'on va en couvrir de la mythologie, on va en couvrir des trucs importants qui sont passés sur l'histoire de la planète, l'histoire de la Terre, l'histoire de l'univers. Tantôt, tu parlais des vilains, comme quoi qu'on n'a pas vraiment de lien ou tout. Écoute, il y a quelque chose qui est bien le fun. Mm-hmm. Des dernières années, beaucoup de geeks, on check ça. C'est quand les compagnies de jouets sortent les prochains arrivages pour les prochaines années, puis ils préparent tellement dans les fêtes d'avance. Fait que là, il y a déjà des figurines Eternals qui sont en liste. Et dans ces figurines-là, on a deux noms de personnages qui sont pas associés à l'équipe des Eternals ou à quoi que ce soit. On parle de Crow. Crow, c'est le leader des déviants dans les comic books. Donc, c'est un immortel, c'est un shapeshifter. Même sa forme prédilection, c'est justement un personnage rouge avec des cornes qui serait l'origine même de l'association de l'image du diable dans notre mythologie à nous. Fait que non, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça serait le leader des méchants, les déviants, qui sont en guerre avec les Eternals depuis toujours.
C'est ça, excuse-moi de t'interrompre. Je suis sur la page IMDb en ce moment, puis tu sais, je vois les acteurs avec les personnages, puis je le vois pas, Crow, là-dedans, encore listé. C'est sûr qu'il y a un acteur qui joue ça, là, mais...
Crow, même dans les comic books, il y a une histoire d'amour secrète avec l'Eternal Tena, qui est le rôle d'Angelina Jolie. Je ne sais pas s'ils vont mettre ça dans le film. Disons que c'est le chef des méchants, puis un peu la chef des bonnes qui aurait une histoire d'amour secrète. Puis un autre personnage qui est sorti avec les figurines, c'est Arisham. Arisham, c'est un Celestials. Ça donne beaucoup de spéculations, encore une fois. Puis Kevin Feige avait dit qu'on va voir des Celestials en grandeur nature et en bon état dans les Eternals. Fait que là, on relance aussi toute l'origine du monde dans ce film-là. J'ai bien hâte de voir ça. Ben, ça fait bien étoler ce qui est sorti dernièrement, là, Eternals. Mais là, c'est pas des fans de Marvel. C'est des activistes américains qui essayent de faire une pétition pour que les Eternals ne sortent jamais en salle.
Ah, oui,
étant donné qu'on devrait assister au premier baiser homosexuel de la franchise, du MCU. Donc, ça a été jusqu'au groupe extrémiste et c'est ça.
Ouais, encore une fois, la réplique de Pat Burns qui a dit à Shane Corson, OK? Voilà.
Ah, Pat Burns. Oui, parenthèse qui n'a rien à voir. Pendant le confinement, je me suis retapé le match numéro 5 en 93 entre les Kings et les Canadiens où on a gagné la coupe, tu sais, puis j'arrêtais pas de penser. Imaginez si Toronto avait éliminé les Kings, ah, on avait eu une finale de coupe. Toronto-Montréal avec Pat Burns comme coach des Leafs puis Félix Potvin d'un goal. Hein? Ça aurait été un 93.
Ah, ça aurait été quelque chose, là. Je suis aussi dans ma thématique des Canadiens. Je suis en train de lire la biographie de Serge Savard en ce moment.
Oh, parles-tu de la santé?
À Pâques! Que... ouais, ça s'en vient sûrement. Ben, hey, j'ai appris plein d'affaires. Écoute, il a grandi, genre, dans un village voisin de... Où est-ce que toute la famille de ma mère a grandi? C'est très drôle, ah, en Abitibi. On a parlé maintenant du monde intergalactique et des confins de l'espace intersidéral. Le film d'après nous ramène dans notre monde bien réel, notre monde bien terre à terre, avec Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings.
Shang-Chi!
Donc, Shang-Chi et the Legends of the Ten Rings, et voilà, qui doit sortir, si tout va bien, le 7 mai 2021. Encore une fois, c'est sujet à changement, les amis. Donc, Shang-Chi, une réalisation de Destin Daniel Creighton, un réalisateur aussi qui est excellent pour réaliser du drame. Je sais pas si tu as vu récemment un film avec Michael B. Jordan qui s'appelle Just Mercy, avec Jamie Foxx là-dedans, aussi un truc un peu judiciaire qui parle de la communauté noire et des injustices aux États-Unis. Merveilleux, il faut que tu regardes ça.
Je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir avant qu'il sorte même. Je suis pas sur l'Académie, mais j'ai eu une bonne plug cette année, puis j'ai réussi à avoir des copies DVD de tous les films en nomination aux Oscars avant qu'on puisse les voir sur grand écran et tout. Fait que oui, j'ai pogné Just Mercy avant qu'il sorte en salle. Et non, j'ai bien aimé.
Donc, qui joue dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings? Eh bien, le rôle-titre a été donné à l'acteur coréo-canadien Simu Liu, qu'on peut voir ces temps-ci dans l'excellente et très sympathique série de la CBC qui s'appelle Kim's Convenience. Vraiment cool, il fait un des personnages principaux. On suit une famille coréenne qui a un dépanneur. Eh bien, il joue le fils du protagoniste là-dedans. Très bon acteur, super sympathique. On a dans le rôle de l'intérêt féminin, celle qui est toujours une bouffée d'air frais dans tous les films dans lesquels elle est. Awkwafina, ouais, qui est forte aussi d'un Golden Globe qu'elle a gagné il n'y a pas très longtemps. Et attention, merveille des merveilles, pour jouer le mandarin, sont allés chercher un des acteurs que toi et moi on connaît très bien, Tony Leung, qu'on a pu voir dans les films de Wong Kar-wai, par exemple, 2046, In the Mood for Love, dans Infernal Affair aussi, une Christie de pointure écœurante. Sérieusement, là.
Il a même joué le rôle de Ip Man, dans un film, là. C'est Tony Leung, c'est pas n'importe qui. C'est super le fun, là. Enfin, il va s'établir peut-être comme acteur aux États-Unis. Écoute, non, je suis vraiment content. Moi, tu connais mon amour pour Infernal Affairs.
Oui.
Puis enfin, peut-être un vrai mandarin.
Eh oui,
on
absolument.
Va en parler tantôt. Mais, hein.
Alors, ultimement, si tu veux, je peux peut-être, à mon tour, parler un peu de qui est Shang-Chi. Ultimement, bon, c'est pas très connu mainstream, mais croyez-moi que quand on va le voir à l'écran, on va le connaître. Ultimement, lui, Shang-Chi, le maître du Kung-Fu, c'est son sous-titre, ultimement, c'est un personnage qui n'a pas de super-pouvoir. Lui, son super-pouvoir, si on veut en parenthèse, c'est que c'est une arme fatale au niveau des arts martiaux. C'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Ses aptitudes au combat sont tellement poussées, fortes et rapides, que lui est capable de combattre des super-héros, des super-vilains avec des super-pouvoirs, juste avec ses capacités normales d'arts martiaux. Il est capable de rivaliser avec eux autres et souvent de les battre. Donc, Shang-Chi, c'est lui, pour entrer dans la grosse histoire ultimement de Marvel, c'est simplement que Marvel Comics voulait les droits de la série télé Kung Fu à l'époque. Ils n'ont pas pu les avoir pour tourner ça en bande dessinée, alors ils ont décidé de créer leur propre maître du Kung Fu qu'ils ont baptisé Shang-Chi. Donc, qu'est-ce qu'on connaît du film jusqu'à maintenant?
À rien! Ils nous disent à rien sur Shang-Chi!
À rien!
Non! On connaît 3 acteurs, on sait que le mandarin revient, c'est pas mal ça. On sait rien sur Shang-Chi, absolument rien.
À part que Simu Liu, qui joue Shang-Chi, a fait une joke le 1er avril dernier pour faire le poisson d'avril. Sur son Twitter, de bonne heure le matin, il écrit « Bon ben, désolé, dû à des différences professionnelles et créatives avec Marvel, je quitte le rôle, au revoir. » Puis finalement, 20 minutes plus tard, il réécrit « C'était une joke. »
Hey, hein? On apprécie l'humour canadien. On reconnaît l'humour canadien ici, là. Ouais.
Et oui, absolument. Direct de Toronto, en plus, c'est
ouais.
Ça.
Ouais. J'attends des nouvelles de Shang-Chi. Je cherche des nouvelles sur Shang-Chi. On n'a rien sur Shang-Chi. Est-ce qu'on va voir un peu l'histoire de Shang-Chi? Ben, c'est intéressant, mais l'histoire de Shang-Chi en tant que tel, c'est le gars il était entraîné dès son jeune âge pour le Kung-Fu par son père. Son père étant Fu Manchu.
Ta-ta-ta!
C'est ça. Shang-Chi réalise éventuellement, en grandissant, que son père, Fu Manchu, il est evil, c'est un méchant. Fait que lui, il décide de switcher, puis non, d'être bon, puis d'aller contre son père, contre ça, contre ci. Puis c'est ça l'origine de la haine de Shang-Chi, puis c'est l'origine du justicier en tant que tel, parce qu'il était vraiment, comme on pourrait dire, berné toute sa vie par la personne à qui il avait le plus confiance, qui est son père et son sensei en tant que tel. Certaines rumeurs nous laissent comprendre qu'il va se joindre aux Avengers dans un avenir plus ou moins rapproché. Dans les comic books maintenant, Shang-Chi fait partie des Avengers, donc on va voir encore une fois un héros un peu plus obscur du grand public que Marvel mise dessus pour nous amener quelque chose. Ça va sûrement valoir quelque chose dans la long run ou dans l'histoire générale.
Quitte à pas vraiment savoir sur ce qui se passe dans le film, on va peut-être parler un petit peu du move business que ça fait chez Marvel, parce que ils s'ouvrent vraiment le marché asiatique. T'sais, ils sont très, très populaires à chaque fois qu'un film de leur marque sort. Le marché asiatique est toujours très, très populaire aussi et très, très important pour un box-office mondial. Et Dieu sait que dernièrement, Marvel et tous les autres films en ont profité généreusement. Et c'est ça, inclure un personnage totalement asiatique là-dedans, qui a son propre film et probablement une trilogie qui s'en vient éventuellement aussi, plus les films d'assemblement aussi. C'est sûr que ça va aider beaucoup également. Mais moi, je me demande un truc. Shang-Chi, bon, moi, je peux pas m'empêcher de faire un rapport avec Iron Fist aussi. Puis moi, je suis curieux de savoir puis de voir comment l'histoire de ce personnage-là va être racontée pour la différencier de celle d'Iron Fist qui a été raconté dans les 2 saisons de la série télé sur Netflix, qui a été, celle qui a été moins bien reçue, tu sais.
Ouais, ben oui, c'était justifié. La première saison était un peu ordinaire.
Ah, man, c'était à se tirer une balle dans la tête.
On tournait surtout autour du fait que le personnage était tellement content de dire que c'était le Iron Fist. The Immortal Iron Fist. Yeah, c'était ça tout le long. La deuxième saison avait bien du bon sens, par contre. Mais ils sont éloignés de la trame narrative des comic books. D'après moi, l'arrivée de Shang-Chi va faire la même chose que quand on a vu avec Black Panther. On va se retrouver dans quelque chose d'extrêmement asiatique, où ce que plus des 3/4 des personnages vont être soit japonais, soit chinois, vont être asiatiques. On va être dans la culture asiatique, dans les couleurs asiatiques, dans certains relents de cinéma asiatique. Non, j'ai hâte de voir ça. Autant dans Black Panther qu'on était dans la culture, les personnages, l'Afrique, le cachet. tous les acteurs étaient afro-américains. Là, je pense qu'on va, du côté asiatique avec Shang-Chi, faire la même chose. Fait que j'ai bien hâte de voir ça.
Ouais, moi aussi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner aussi. Ça va donner de la variété par rapport aux acteurs qu'on va voir qui sont pas, qui seront pas tous caucasiens et tout ça. Donc, ça va donner une belle variété.
Non, c'est ça.
En plus de faire des gros sous à Marvel. Ouais.
Tant non, même. Marvel est pour l'ouverture vraiment. Marvel a toujours été pour l'ouverture, l'inclusion. On l'a vu dans les anciens films. On le voit maintenant que cette phase-là, grande part donnée aux femmes, autant en production que devant l'écran. Intéressant, très, très intéressant. Écoute, tout ce qu'on avait à date, c'était Wong dans Doctor Strange. Fait que là, on a Shang-Chi et toute sa gang qui arrive, là, ça va être bien ben intéressant. Là, j'ai hâte de voir ça. Là.
Ah, ben excellent. Puis aussi, pour finir sur le sujet de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, eh bien, ultimement, ces 10 anneaux-là, eh bien, ils sont bien sûr associés, pour ceux qui connaissent Marvel, au personnage du Mandarin. Selon toi, après la subversion du personnage que Shane Black nous a donné dans Iron Man 3, est-ce qu'on va enfin avoir droit à une vraie itération du Mandarin?
Ben écoute, pas pour rien qu'Iron Man 3 est... Et vu comme étant le weakest link des films de Marvel, avec Thor 2. Mais bon, écoute, là, je pense qu'on a un vrai mandarin. Que j'ai peut-être entendu dire, c'est plus des rumeurs que d'autres choses. Ça serait justement que le vrai mandarin qu'on va voir dans Shang-Chi est au courant de ce qui s'est passé dans Iron Man 3, puis il est pas super content. Fait qu'il vient reprendre sa place in a big fucking way, là. Fait qu'on pourrait assister à vraiment du mandarin, du unleash mandarin, là. À savoir s'il va continuer par après, ça serait intéressant parce que mandarin a aussi des liens avec justement d'autres super-héros. On l'a déjà vu, Iron Man, ça va être plus complexe, là, mais on l'a déjà vu dans des comic books aussi avec Doctor Strange. Fait que, non, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec le mandarin. Encore une là, est-ce que ça va être un méchant qui est juste pour ce film-là? Ou qu'il y a quelque chose qui va suivre par après avec une arc quelconque de personnage pour ce méchant-là. Ben, j'ai hâte de voir ça, mais je pense que tu vas citer à un vrai mandarin, là, mais un vrai de vrai mandarin.
Moi, c'est drôle, je pense toujours à Norman Brathwaite à Pimentfort qui disait « Alors, pour ceux qui vont au buffet, le mandarin! » Fait que voilà, ça m'a monté dans ma tête jusqu'à temps que le film sorte.
Là, je viens de voir une image d'immense chapeau ridicule.
Chers auditeurs, maintenant que la conversation est bien entamée, on va mettre un signet dedans pour vous permettre de bien absorber tout ce que Philippe et moi y avons dit. On vous revient dans quelques jours pour se lancer dans les deux films restants, soit les gros canons que sont Thor, Love and Thunder et Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Attachez bien votre tuque parce qu'on en a eu très long à dire. D'ici notre prochain rendez-vous, Philippe et moi vous souhaitons de rester en sécurité avec vos proches et de bien vous laver les mains tout en appliquant les précautions d'usage avant, pendant et après vos déplacements. Passez une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode de Sans commentaires ou presque.